Les endroits où il ne va pas pleuvoir aujourd'hui, en Alsace et en Lorraine, où on aura très belles éclaircies avec des températures très élevées, 26 à Strasbourg aujourd'hui. Il pleut quasiment partout, c'est gris sur toute la France ce matin. Cet après-midi, on va retrouver des éclaircies entre la Bretagne et le Pays Basque. Quelques éclaircies également entre les Hauts-de-France et la région parisienne. Mais attention donc à ces fameux orages. 28 autres départements sont en vigilance jaune. Des orages attendus entre le Lyonnais et la région parisienne. Ça risque de taper fort avec de la grêle aujourd'hui.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mercredi 1er mai, il est 7h.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
C'est l'actualité de la nuit en provenance des États-Unis. L'université de Columbia a été évacuée par les policiers new-yorkais. Les militants pro-palestiniens ont été délogés dans le calme. Fin d'une occupation qui aura duré presque 2 semaines. Récit dès le début de ce journal. L'université américaine et française, toutes deux confrontées aux répercussions du conflit entre Israël et le Hamas. Le monde politique également a écouté dans ce journal le très vif échange hier à l'Assemblée entre l'insoumis Manuel Bompard et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. On l'a également appris cette nuit, la disparition d'un grand de la littérature américaine, l'auteur de Mister Vertigo, Moon Palace, vient de nous quitter. Paul Auster est décédé des suites d'un cancer.
Je ne veux pas écrire toujours le même livre. Chaque livre, c'est un nouveau commencement pour moi. Ça, c'est la beauté de toute l'entreprise.
Paul Auster, dont on reparlera à 7h40 avec notre expert littérature, Nicolas Caro. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cela s'est passé un peu plus tôt cette nuit à New York. L'intervention des policiers new-yorkais sur le campus de Columbia, l'un des bâtiments, a été occupée par plusieurs dizaines de manifestants pro-palestiniens. L'université new-yorkaise, fer de lance de la contestation de l'intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza. Bonjour Aviva Fried.
Bonjour à tous.
Correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, le pouvoir fédéral, la présidente de l'université, avait sans doute estimé que l'occupation avait assez duré.
Oui, il était à peu près 21h à New York, 3h heure française, quand des dizaines de policiers en tenue anti-émeute ont cassé une fenêtre du premier étage du bâtiment Hamilton à Columbia. C'est par là qu'ils sont entrés pour reprendre possession des lieux où des manifestants s'étaient barricadés. Les policiers sont ensuite ressortis en escortant des manifestants menottés qu'ils ont fait monter dans des bus garés non loin de là. La police est intervenue à la demande de la présidente de Columbia, l'occupation du bâtiment qui aurait été en partie vandalisée et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon le chef de la police de New York, Edward Caban.
Ce que nous avons vu hier soir et aujourd'hui n'est pas acceptable. Ces manifestations qui étaient pacifiques sont récupérées par des agitateurs professionnels venus de l'extérieur. Nous sommes inquiets pour la sécurité des étudiants, des professeurs et du personnel.
Le campement de Columbia a également été évacué et l'université a demandé à la police de rester sur le campus jusqu'au 17 mai. Le message de la direction est clair, tout cela a assez duré.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, évacuation sans discussion à Columbia, mais négociation ailleurs. La Brown University de Rhode Island accepte le principe de couper tout lien avec les mécènes et entreprises liées à Israël. La question sera abordée en conseil d'administration.
Alors la fin des occupations dans ces deux universités amorce peut-être une désescalade dans les facs américaines. Ce n'est pas le cas en France.
Et après Paris, les antennes de Sciences Po en province ont rejoint le mouvement ou tenté de le faire à Strasbourg, Bordeaux ou encore à Rennes. Encouragée par les syndicats étudiants et la France insoumise.
Le parti d'extrême gauche décidément au cœur de l'actualité politique et judiciaire.
Mathilde Panot, chef du groupe insoumis à l'Assemblée, et Rima Hassan, candidate aux européennes, convoquée au commissariat dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Colère du député La France insoumise, Manuel Bompard, qui a vivement interpellé le ministre de la Justice hier, Éric Dupond-Moretti, à l'occasion des questions du gouvernement à l'Assemblée.
On empêche des candidats à une élection de tenir une conférence dans une université. On convoque la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition devant la police antiterroriste pour un communiqué de presse. On menace et on réprime des étudiants qui s'indignent face à un massacre terrifiant. Il y a les opinions autorisées, les vôtres et celles de vos nouveaux amis d'extrême droite. Et il y a les autres, celles qui conduisent devant les tribunaux ou dans les commissariats de police.
Le député La France Insoumise, Manuel Bompard, accuse la Macronie de penser comme l'extrême droite. Il n'en fallait pas davantage pour faire réagir le garde des Sceaux. Réponse précise et cinglante d'Éric Dupond-Moretti.
Monsieur le député Bompard, la justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. C'est comme ça que vous l'envisagez. La justice a donc été saisie et elle dira ce qu'elle a à dire en toute indépendance. Vos amis à vous, ce sont les mollas, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte.
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, hier à l'Assemblée nationale, à l'occasion des questions au gouvernement. La campagne pour les élections européennes, le dernier baromètre CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, confirme l'avance confortable du Rassemblement national sur la concurrence. Le RN, qui dévoilera cet après-midi à Perpignan les noms des 35 candidats pour les européennes. Pendant ce temps, Marion Maréchal sera dans les Vosges. Entre les deux partis cousins, Reconquête et le RN, l'heure n'est plus aux discussions sur un éventuel rapprochement. Alexandre Chauveau.
Face à l'hémorragie en cours d'électeurs zémouristes tentés par Jordan Bardella, Reconquête change de braquet et n'hésite plus à faire du président du RN une cible. Qualifié de prestidigitateur par Sarah Knafo, nouvelle numéro 3 sur la liste de Marion Maréchal, Jordan Bardella est accusé de tromper les électeurs en parlant comme Éric Zemmour. Mais la vraie patronne, ça reste Marine Le Pen, rectifie-t-on chez Reconquête, où l'on sait la députée du Pas-de-Calais moins populaire que son cadet chez les sympathisants de droite. Nos électeurs ont pu un moment s'interroger sur notre plus-value, concède une stratège du parti, déterminée désormais à marquer ses différences avec le RN sur les questions sociétales comme en économie. Marion Maréchal, elle, s'était jusque récemment abstenue d'attaquer Jordan Bardella, tant par stratégie politique, la tête de liste ayant toujours plaidé en faveur de l'union des droites, que par affinité personnelle, le RN étant son ancien parti.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, et entre 130 000 et 150 000 manifestants attendus dans toute la France aujourd'hui à l'occasion des traditionnels défilés du 1er mai. Pas de risque avéré en matière de sécurité selon les services de renseignement. Le geste de l'État pour les Franciliens contraints d'emprunter l'autoroute A14 en raison de la fermeture de l'A13. Le ministère des Transports annonce la prise en charge de 50% du prix du péage jusqu'à remise en service complète de la 13, dispositif valable uniquement pour le covoiturage.
Le football, Dortmund, Paris Saint-Germain, ce soir, c'est la seconde affiche des demi-finales aller de Ligue des Champions, et les Parisiens ont toutes les raisons d'y croire.
Ah oui, match sur la pelouse des Allemands du Borussia Dortmund, il faudra affronter le mur jaune, tribune des plus fervents supporters du Borussia, mais Cyril Delamorinerie, le PSG a deux sérieux atouts à faire valoir.
Oui, le PSG est favori. D'abord Paris, qui a affronté à deux reprises Dortmund cette saison en phase de groupe de la Ligue des Champions, a gagné une fois et fait match nul. Ensuite, dans leurs championnats respectifs, Paris fait mieux. Le club parisien vient d'être sacré en Ligue 1, alors que le Borussia n'est que cinquième en Allemagne. Mais l'entraîneur Luis Enrique tacle les journalistes qui font de son équipe la grande favorite de ce choc européen.
C'est pour ça que je dis depuis longtemps que la presse ne connaît rien au football. Ce qui est beau, c'est de profiter d'une ambiance unique en Europe et d'aller en finale.
Et pour s'imposer dans le bouillant stade de Dortmund, Paris devra jouer en équipe comme il l'a fait dernièrement en Catalogne, insiste le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse.
Il faut un Paris Saint-Germain européen, c'est-à-dire comme ils ont pu le démontrer à Barcelone. On voit leur capacité à être à un très grand niveau, mais quelquefois aussi à être un petit peu en retrait.
Et le PSG compte sur son chef d'orchestre Vitinha, son ailier Barcola et sur le redoutable Mbappé, déjà auteur de 43 buts cette saison, toutes compétitions confondues, un record pour remporter ce bras de fer.
Cyril Delamorinerie, et puis de partout hier soir dans la première demi-finale entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Match retour mercredi prochain.
Et vous avez entendu sa voix dans les titres de ce journal, on l'a appris cette nuit, la disparition d'un grand de la littérature américaine. Paul Auster est mort.
Et l'auteur de Moon Palace, lauréat du prix Médicis étranger pour Léviathan, Paul Auster avait accordé une interview à Nicolas Caro sur Europe 1 dans l'émission La Voix Livre, c'était en 2018.
Je ne veux pas me répéter, hein. Je ne veux pas écrire toujours le même livre. Et chaque fois que j'ai commencé d'écrire un roman, c'était contre tous les autres livres que j'ai écrits. Et pour ça, c'est une aventure, et c'est pas une profession. Chaque livre, c'est un nouveau commencement pour moi. Et je suis amateur. Je n'ai jamais écrit ce livre avant. Il faut que j'apprends comment écrire ce livre en l'écrivant. Ah, ça, c'est la beauté de toute l'entreprise.
L'écrivain Paul Auster dans l'émission La Voix est libre sur Europe 1 au micro de Nicolas Caro. On a appris la mort de Paul Auster cette nuit à l'âge de 77 ans. Il est décédé des suites d'un cancer.
Et on reparlera de Paul Auster tout à l'heure à 7h40 dans le Club Culture d'Europe 1 avec notre expert maison Nicolas Caro. Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito Éco.
Eh bien, ce 1er mai, jour de mobilisation sociale, quel est la réforme des retraites devenue? On fera le point avec Nicolas Bouzou des conséquences du mouvement social et de la réforme elle-même. Ce sera dans 10 minutes, juste après le premier invité d'Europe 1 Matin, justement, question sur le climat social en France. Ça bloblote à feu doux. On va en parler avec le directeur de l'Institut supérieur du travail, Bernard Vivier. À tout de suite.
7h, 9h. Europe 1 Matin.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS. Vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi, je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les acras de morue.
Et issu de la pêche durable.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limiter les aliments gras, salés et sucrés.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'Institut supérieur du travail.
En ce 1er mai, jour de la fête du travail, bonjour Bernard Vivier.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, question avec vous ce matin, Bernard Vivier, sur le climat social en France, en ce jour traditionnel de mobilisation syndicale. Alors, on a eu une année 2023, on s'en souvient, particulièrement agitée avec la réforme des retraites, notamment la première partie de l'année. Comment vous qualifieriez 2024 à ce stade des opérations, Bernard Vivier? On a une impression d'atonie sociale.
Sur le 1er mai ou d'une façon plus générale?
D'une façon plus générale, on parlera du 1er mai juste après.
Bon, c'est l'atonie sociale, en effet. Les organisations syndicales sont un peu pliées, assommées. Il y a eu la réforme des retraites qui s'est faite sans les avoir écoutées. Et puis, il y a aujourd'hui un vaste mouvement d'effacement progressif du paritarisme. Le paritarisme, ce sont des instances, assurance chômage, retraite complémentaire, qui, depuis leur création, sont gérées par le patronat et les syndicats. Et depuis de longues années, mais ça s'accélère, on voit aujourd'hui l'État, la puissance publique, prendre en main ces institutions en disant « c'est nous, État, qui allons organiser tout cela ». Et donc, ça fait des milliards également qui ne sont plus gérés par les partenaires sociaux, patronat et syndicats, ils sont gérés par l'État.
Mais c'est une OPA de l'État parce qu'il y a une incapacité, il y aurait une incapacité des partenaires sociaux à s'entendre, ou bien c'est un projet de captation de justement cet argent pour les finances publiques, selon vous, Bernard Vivier?
La réponse est entre les deux.
Oui.
Il y a une difficulté des organisations syndicales et patronales à moderniser les dispositifs qu'ils ont contribué à faire naître. Mais il y a aussi une vision très verticale,
oui,
d'effacement des corps intermédiaires d'une haute fonction publique qui dit ben, « nous savons ce qu'il faut pour, oui, le pays et donc le risque ».
Et on adresse des lettres de cadrage extrêmement strictes que les partenaires, voilà, sociaux doivent tenir, et c'est généralement intenable.
Intenable parce qu'on dit « vous allez réformer l'assurance », mais François Hollande et Emmanuel Macron sont dans cette ligne-là.
Oui. «
Nous allons réformer l'assurance chômage, vous allez négocier dans deux mois ». Deux mois, c'est effrayamment court pour, oui, une réforme de cette ampleur. Vous devrez arriver à telle conclusion. Et si vous n'y arrivez pas, la phrase sacrée, l'État prendra ses responsabilités. Absolument. C'est-à-dire, je vous prends tout.
Voilà. Mais alors ça, j'ai envie de dire, c'est au sommet de la pyramide sociale, Bernard Vivier, dans les hautes instances du paritarisme, mais à la base, dans les entreprises, dans la fonction publique, on voit plein de petites grèves, plein de petits mouvements. Vous passez devant les ministères, vous avez souvent des gens qui viennent d'entreprises, qui s'enchaînent pour une mobilisation très particulière. Qu'est-ce qu'on peut dire du climat social aujourd'hui, Bernard Vivier ?
Bien justement, les organisations syndicales ne tiennent plus les équipes, les mouvements catégoriels corporatistes montent en puissance. Oui. Exemple aujourd'hui, les contrôleurs du trafic aérien. Oui. Et donc, les égoïsmes catégoriels se développent, et le risque, c'est un jour d'avoir ce que nous avons vécu en 2018-2019, un État coupé des organisations syndicales et patronales, et avoir en face de lui, non pas le peuple, mais la foule, les gilets jaunes et les manifestations violentes.
Oui, parce qu'on se rappelle, les gilets jaunes, les syndicales ne l'avaient absolument pas vu venir, et avaient eu toutes les peines du monde à s'y raccrocher, ils s'en étaient même fait écarter.
Oui, décembre 2022, contrôleur de la SNCF, même chose. Février 2024, là, il y a quelques semaines, rebelote. Et l'on voit aujourd'hui, le SNCTA, Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien, menace de faire grève. Moi, je me souviens, au début des années 1970, les contrôleurs du trafic aérien étaient adhérents d'une une organisation qui était encore modeste à l'époque, la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Et la CFTC avait besoin, pour grandir, de tout ce qui passait sous la main. Eh bien, la CFTC a évacué ce syndicat parce que ce syndicat n'avait pas le sens de l'intérêt général et était trop catégoriel.
Alors, le 1er mai, la fête du travail aujourd'hui, à quoi s'attendre? Est-ce qu'il y aura du monde dans la rue? Est-ce que ça opère toujours cette mobilisation traditionnelle pour le travail le 1er mai?
Non, c'est très symbolique, c'est très sympathique. C'est pas le 14 février, la fête des amoureux, c'est la fête des travailleurs. On reste pas sous la couette, on va sur les barricades. Ça, c'est un peu fini aujourd'hui. Oui. Le 1er mai, c'est un beau symbole, mais qui est en régression d'année en année. Même le muguet se vend de moins en moins au carrefour des rues. On trouve de moins en moins de vendeurs de muguet. Donc le 1er mai reste un symbole. Cette année, ça va être comme les années précédentes, oui. Sauf l'an dernier.
Ah, il y avait eu du monde, il y a quoi, 800 000 personnes dans les
rues. L'an dernier, il y avait 800 000 personnes. L'année d'avant, il y avait 116 000 personnes, chiffre de la police. Et cette année, on va faire les mêmes chiffres qu'il y a deux ans.
Il y avait eu un regain de syndicalisation, d'ailleurs, l'an dernier. Les syndicats s'en étaient félicités dans la roue, évidemment, du mouvement contre la réforme des retraites. Est-ce que ça s'est perpétué? Est-ce que ça continue, Bernard Vivier? Est-ce qu'il y a eu un... Est-ce que ça... les salariés ont renoué avec leur syndicat, diriez-vous?
C'est le grand mystère aujourd'hui. La CGT, par exemple, vient d'indiquer que sur l'année 2023, elle a engrangé 55 000 adhérents de plus.
Ah oui, c'est pas mal, hein.
Mais elle ne dit pas combien elle en a perdu dans le même temps. Quel est le solde?
Oui.
Voilà, le solde. Il est négatif ou il est positif? Les observations que l'on peut faire, c'est que même positif, ce solde est composé de personnes qui vieillissent. Les jeunes générations ne vont pas dans l'engagement syndical.
Ah, vous voulez dire que les nouveaux syndiqués sont plutôt âgés?
Alors, la CGT, dans sa publication de ses chiffres, dit moyenne d'âge 40 ans pour les nouveaux.
Ah, c'est pas mal, 40 ans, c'est assez
pour
jeune.
Pour les nouveaux, pour les 55 000. Mais la CGT revendique 600 000 adhérents.
Oui.
La moyenne d'âge des adhérents de la CGT, elle est au-dessus des 40 ans.
Alors, on est dans une période pré-électorale, les européennes. On est aussi dans une période pré-olympique. On a parlé du mouvement des contrôleurs aériens. On a parlé de la SNCF. Ça favorise finalement des mouvements catégoriels. Est-ce qu'à l'occasion de ces Jeux Olympiques, Bernard Vivier, vous pronostiquez une montée en puissance de mouvements sociaux dans les semaines qui viennent?
Alors, vous me voyez hésiter dans ma réponse parce que la réponse n'est pas facile.
Pourquoi?
Les organisations syndicales sont conscientes que les Jeux Olympiques, c'est un enjeu pour le pays.
Oui.
C'est un enjeu pour le mouvement syndical aussi.
Bah oui, ils sont attendus, parce que forcément, quand on voit les autres gagner, on se dit peut-être que dans ma profession, on pourrait obtenir quelque chose.
Oui, et puis le mouvement syndical est attaché aux Jeux Olympiques. Comité d'organisation des Jeux Olympiques en France, Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT.
Vous avez raison.
Les organisations syndicales, Force Ouvrière, par exemple, ou même la CGT, sont partie prenante dans la réalisation du Tour de France, autre événement sportif de dimension qui dépasse la France. Et les syndicats sont très attachés à cela. Mais ils doivent faire face en interne à ces replis catégoriels, à ces revendications salariales catégorielles, et souvent font monter les enchères pour ne pas être eux-mêmes leaders syndicaux détachés de la base.
Merci beaucoup de vos lumières, Bernard Vivier, sur le monde du travail en ce 1er mai. Bonne journée à vous. Merci d'être venu sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonne journée.
Il est 7h19 sur Europe 1. Bonne matinée.
7h-9h, Europe 1 matin.
L'édito écho sur Europe 1.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Nicolas. Et bien quelque part, on va continuer et la conversation que nous menions avec Bernard Vivier. Vous revenez ce matin, Nicolas, sur l'actu syndicale de l'an dernier, 2023, la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il en reste, Nicolas?
Bah écoutez, la réforme des retraites de l'année dernière, hein, c'est l'exemple d'une spécialité française, la crise d'hystérie hexagonale, pour pas grand-chose. Hein. Des mois de blocage et d'empoignade dans le débat public pour une réforme qui laissera pas beaucoup de traces dans la société française. Alors, pas beaucoup de traces financières d'abord. Hein. Cette réforme, elle est dans le bon sens, mais enfin, elle était très minimaliste. D'après les calculs du Conseil d'orientation des retraites, avec une hypothèse de hausse de productivité de 1% par an, ce qui est plutôt optimiste, le régime sera en très léger déficit en 2030.
Donc, bon, il faudra réformer à nouveau.
En tout cas, la réforme n'aura pas rendu le système excédentaire, elle aura simplement évité la faillite.
Alors, sur le plan syndical maintenant, cette réforme, à quelle trace a-t-elle laissé?
Elle a montré une incapacité des syndicats à embrasser les sujets sociaux du 21e siècle, hein, qu'ont réussi les syndicats récemment. Alors, ceux de la SNCF viennent d'arracher, sous le chantage de la grève, un accord qui permet aux cheminots de partir en retraite plusieurs mois avant la limite légale. Il s'agit d'aller contre cette réforme des retraites, hein, en quelque sorte. Bon, au bout du compte, hein, ce sont les clients de la SNCF qui paieront, ou le contribuable, ce qui revient au même. Mais sur la question cruciale de l'emploi des seniors, qu'on n'avait pas réussi à régler hein, au moment de la réforme des retraites, eh bien les syndicats patronaux et de salariés n'ont pas été capables de trouver un accord. Hein. L'idée d'un contrat à durée indéterminée senior adapté aux plus de 60 ans est enterrée. Hein. Un millimètre d'audace, c'est vraiment trop pour nos partenaires sociaux. Bertrand Martineau, hein, l'économiste qui est spécialiste de ces sujets, explique que les négociations au niveau national sont bloquées parce que les positions des différents syndicats sont très éloignées les unes des autres et personne n'accepte aucune concession, ce sont vraiment des enfants.
Et sur le climat social du pays, enfin.
Écoutez, il y a un an, on nous expliquait que le gouvernement passait en force de façon inacceptable, que la France était un pays néolibéral, autoritaire, que plus jamais la situation sociale ne serait comme avant. Pardon, hein, mais on était assez peu nombreux à relativiser l'ampleur de ce mouvement social. Un an après, qu'en est-il? Tout le monde s'accorde à dire que la réforme des retraites était minimaliste, les syndicats ne sont ni renforcé, ni affaibli, mais toujours invisible. Quant à la France, elle est restée une social-démocratie hyper protectrice et plus endettée que jamais. Voyez, cette réforme, c'était vraiment du théâtre.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas. À demain.
Europe 1.
Un nouvel horaire à noter pour La France bouge. Retrouvez désormais du lundi au jeudi de 21h à 22h sur Europe 1, Elisabeth Tassayag et toute son équipe.
Oui, La France bouge avec ce soir et une émission consacrée à la protection des animaux. Elisabeth va recevoir Rodolphe Delors, c'est le président directeur général du Zooparc de Beauval, président de l'Association française des parcs zoologiques.
La France bouge, c'est du lundi au jeudi de 21h à 22h sur Europe 1.
Allez, bon réveil à vous. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent sur Europe 1, Christophe Lamar.
Le monde de la littérature est en deuil. L'écrivain américain Paul Auster est mort cette nuit à 77 ans des suites d'un cancer. L'auteur de la trilogie new-yorkaise ou encore Moon Palace a écrit plus d'une trentaine de livres traduits dans plus de 40 langues. Entre 130 000 et 150 000 manifestants attendus dans toute la France à l'occasion des traditionnels défilés du 1er mai. Pas de risque avéré en matière de sécurité selon les services de renseignement. Un 1er mai qui s'accompagne de quelques hausses, plus 4,6% pour les prestations sociales comme le RSA ou la prime d'activité. Si vous allez chez le médecin, le reste à charge pour une consultation passe à 2 euros. Nouvelle augmentation pour le prix repère du gaz, plus 1,4%. Et puis le football et les demi-finales de la Ligue des Champions, de partout entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Ce soir, Dortmund-PSG à 21h.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Ouais, un jour triste que l'on va commémorer ce matin, il y a 30 ans, le 1er mai 94. Le champion de Formule 1, Ayrton Senna, meurt après s'être encastré dans un mur lors d'Autriche sur le circuit d'Imola en Italie.
Oui, ce jour-là, le pilote brésilien trouve sa voiture nerveuse, difficile à conduire. Mais le triple champion du monde ne désespère pas de s'offrir une quatrième couronne dans cette saison 94. Il est en tête de la course, devant Schumacher. Mais perd le contrôle de sa Williams Renault dans le 7e tour. Son bolide percute un mur dans un virage.
La voiture de Senna a heurté à plus de 250 km/h un mur de protection en béton.
Son casque jaune ne bouge plus. Les médecins viennent à son secours. Dominique Bressot, qui est sur place pour Europe 1, a tout vu.
Nous avons vu cette Williams filer droit dans le mur qui est sur la droite. C'est-à-dire que Ayrton Senna n'a pas pu négocier cette grande courbe à gauche de Tamburello.
Et l'hôpital de Bologne en Italie annonce sa mort à 18h40. À 34 ans, Magic Senna disparaît. Le pilote Alain Prost lui rend un hommage appuyé sur Europe 1. Les deux hommes n'étaient pas franchement amis, mais ils se respectaient.
Quand une voiture de course, quelle qu'elle soit, sort de la route à 300 à l'heure, ou plus de 300 à l'heure, causé par un accident mécanique, il faut avoir beaucoup de chance pour s'en tirer indemne. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de courir, vous savez très bien, les notions de risque.
À l'époque, des pilotes diront aussi que la Formule 1 est devenue un trop gros business, qu'on sacrifie la sécurité au spectacle. Deux semaines plus tôt, en avril 1994, Ayrton Senna accordait sa dernière interview à Europe 1 en voulant donner le meilleur de lui-même.
Nous, chez Williams-Renault, nous n'avons pas réussi pour l'instant à exploiter tout le potentiel de la voiture. J'espère qu'on a mangé notre pain noir pour la saison et qu'on va enfin avoir de bonnes performances.
Merci beaucoup et au revoir.
15 jours plus tard, le monde entier pleure Ayrton Senna et le Brésil décrète un deuil national de 3 jours pour celui qui était devenu le symbole du Brésil qui gagne.
Merci Laure d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et si vous profitiez de ce jour férié, si vous preniez un petit peu plus de temps que d'habitude pour prendre votre téléphone et tenter votre chance, puisque toute cette semaine, Europe 1 vous offre chaque matin un cadeau exceptionnel. Une carte cadeau de 500 euros, valable pendant 2 ans et à dépenser dans les hôtels et restaurants du label Territoria. Territoria, c'est présidé par le grand chef Alain Ducasse et c'est idéal à l'approche des ponts de mai. Vous allez pouvoir vous faire plaisir en famille ou entre amis dans l'un des 430 établissements premium à taille humaine que vous pouvez dès maintenant découvrir sur territoria.com.
Voici la question du jour pour tenter de remporter ce chèque cadeau. Pour quelle écurie Ayrton Senna conduisait-il lors du Grand Prix Fatal d'Imola ? McLaren ou bien Williams ?
Pour tenter votre chance ce matin, il suffit d'envoyer le mot de passe Évasion au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Et c'est un gagnant par jour toute cette semaine. Bonne chance à tous. Je vous rappelle qu'à 8h10, Béatrice Brugère sera l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews.
Oui, la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat, alors que le désir de justice grandit en France, mais qu'il n'est pas satisfait. Alors, quelles sanctions, notamment pour les mineurs, après par exemple la mort de Mathis à Châteauroux? Rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
Bonjour, c'est Pascal Praud sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal ?
Pascal Praud et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À tout à l'heure sur Europe 1.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380 euros par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4500 euros, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voire conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi. place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Le temps, Anissa Dadi. Alors c'est vraiment la surprise du ciel. Hein. 14 départements en vigilance orange aux orages, ça vient de tomber.
Et hein. Oui, à partir de 17h, soyez très prudents dans la Somme, l'Aisne, la Marne, l'Aube, Lyon, la Seine-et-Marne, l'Oise, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et Paris. 14 départements vigilance orange aux orages. Et c'est vrai que les orages risquent d'être violents en deuxième partie de journée. Pour l'instant, ce matin, nous avons deux perturbations qui traversent le pays. Une première perturbation qui va du bassin méditerranéen jusqu'au centre Val-de-Loire et qui arrose copieusement toutes ces régions du Grand Sud-Ouest. Et puis une deuxième perturbation qui arrive par l'Atlantique et ce matin qui arrose les régions situées entre la Normandie et le Pays Basque. Ailleurs, c'est plutôt calme pour l'instant. C'est vrai que sur l'Alsace, on aura un ciel plutôt ensoleillé ce matin. L'Alsace et la Lorraine. Entre les Hauts-de-France et la région parisienne, des éclaircies, mais ça va se gâter dans l'après-midi, vous l'avez compris. Cet après-midi, on va retrouver de belles éclaircies aussi entre la Bretagne et le Pays Basque, le long de la façade atlantique, avec un ciel partagé entre nuages, éclaircies et petites averses. Il fait chaud dans l'Est. 26 à Strasbourg, 25 à Metz, 23 à Dijon et Belfort, 20 degrés à Paris. Il fait plus frais dans le Sud-Ouest, avec seulement 10 degrés à Pau.
Merci beaucoup, Anissa Dadi. Je vous souhaite un excellent réveil en ce mercredi 1er mai. Il est 7h30 sur Europe 1, le journal.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une, les parents perplexes face à l'idée d'interdire les écrans à leurs enfants. Un collège d'experts a recommandé hier au gouvernement de strictement réglementer l'accès aux écrans pour les plus jeunes notamment. Alors est-ce réellement possible? Reportage Europe 1 dans un instant. Thomas à Crépol, Matisse à Châteauroux et bien d'autres. Les attaques au couteau se multiplient dans le pays. Europe 1 vous révèle ce matin les conclusions d'une étude de la police judiciaire sur le profil des agresseurs. Dans ce journal également, la ferveur olympique qui gagne la cité phocéenne. Marseille se prépare à l'accueil de la flamme, mais aussi des milliers de touristes. Reportage auprès des commerçants du Vieux-Port dans un instant. Le journal de 7h30 sur Europe 1. Nina Pavan, bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Interdire les écrans avant 3 ans, les smartphones avant 11 ans et les réseaux sociaux avant 15 ans, plus facile à dire qu'à faire, répondent les parents. Après la présentation hier au président de la République d'un rapport sur les dangers de l'exposition aux écrans pour les plus jeunes, le constat des scientifiques est sans appel. Les écrans provoquent des retards de développement chez les enfants. Sauf que les interdire par la loi, les parents eux-mêmes n'y croient pas. Reportage de Thibault pour Europe 1.
Nathalie, mère d'un petit garçon, est pensive. Le rapport commandé par l'État ne prend pas, selon elle, le problème par le bon bout.
Je ne pense pas que ce soit réaliste à l'heure actuelle. De dire pas d'écran, non. Dire pourquoi l'utiliser, quelles sont les limites, oui.
Rodolphe, père de deux enfants, lui est complètement dépassé. Alors interdire le téléphone avant 11 ans, les réseaux sociaux avant 18 ans, pourquoi pas. Mais en pratique, c'est presque impossible.
On travaille à des horaires décalés. Je suis obligé de laisser la télé le temps que la maman arrive.
Carole, elle souhaite surtout des outils adaptés, notamment un logiciel de contrôle parental que ses enfants ne pourraient plus contourner.
On ne sait pas comment ils font. Techniquement, il faut que ce soit plus efficace, plus accessible pour nous et qu'il y ait vraiment des barrières.
Le corps enseignant, lui, partage l'avis des experts. Les dégâts en classe sont déjà bien visibles.
Aux parents, quand des enfants ont des difficultés, souvent la question première qu'on va poser, c'est au niveau des écrans, ça se passe comment? Quand on dit aux parents, bah, écoutez, là maintenant, il faut vraiment limiter, voire tout arrêter, on sent vraiment qu'il y a un changement radical très rapidement, quoi.
Et les parents qui ont déjà pris des mesures strictes à la maison sont rassurés avec l'impression d'avoir un temps d'avance.
Thibault pour Europe 1. Ni harcèlement scolaire, ni manquement de l'éducation nationale. Ce sont les conclusions de l'enquête administrative suite à l'agression de Samara, 13 ans, tabassée à la sortie de son collège à Montpellier le 2 avril dernier. Sa mère conteste fermement ses conclusions et continue à évoquer des défaillances dans la protection de sa fille. Lui appelle, je cite, à ce que justice soit faite. Les mots du père de Matisse, 3 jours après la mort de son fils, poignardé à samedi à Châteauroux par un jeune du même âge que lui, 15 ans, aidé par sa mère qui a reconnu avoir frappé la victime. L'enquête pour meurtre se poursuit.
Les attaques à l'arme blanche qui justement se multiplient en France. Europe 1 vous révèle ce matin une étude de la police judiciaire.
William Molinier, vous avez pu consulter ce document qui permet de dresser un portrait des auteurs d'homicides par arme blanche.
En France, l'âge moyen des victimes d'homicides par arme blanche est de 38 ans, un quart à moins de 26 ans. L'accélération de ce phénomène, qui se vérifie aussi au niveau européen, touche surtout les jeunes. Quant aux auteurs, ils sont majoritairement des hommes, âge moyen 33 ans, déjà connus des fichiers de police dans 63% des cas. Par ailleurs, selon cette étude de la police judiciaire qu'Europe 1 s'est procurée, 26% des auteurs d'homicides au couteau sont des étrangers, 53% sont sans emploi. Dans 3 cas sur 10, ils ont consommé de l'alcool au moment des faits. Les enquêteurs notent cependant que le taux de résolution de ce type d'homicide est très élevé. 9 meurtres sur 10 ne restent pas impunis. C'est un de plus que pour les meurtres par arme à feu. Ce qui s'explique, selon les policiers, par la proximité entre l'auteur et la victime lors du passage à l'acte. La présence d'ADN permet ainsi de favoriser l'identification du tueur.
William Molinier pour Europe.
En bref, au Proche-Orient, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, rencontre ce matin le Premier ministre israélien à Jérusalem.
Benjamin Netanyahou, intransigeant, Tsahal mènera une offensive sur Rafah au sud de la bande de Gaza, accord de trêve ou pas. Le Hamas qui a jusqu'à ce soir pour dire oui ou non à un cessez-le-feu de 40 jours contre la libération des otages israéliens et de plusieurs milliers de prisonniers palestiniens. Nous serons en direct de Tel Aviv dans le journal de 8 heures avec la correspondante d'Europe 1 en Israël. Le soutien à Gaza qui a secoué le campus de Sciences Po Paris vendredi dernier se propage désormais dans le reste de la France. Des mobilisations étudiantes touchent les sites de Sciences Po Menton, Lyon, Grenoble ou encore Toulouse.
Il est 7h34 sur Europe 1. Nous sommes le mercredi 1er mai. Tradition oblige, des manifestations et des changements à noter aujourd'hui.
Côté manifestation, le renseignement intérieur attend jusqu'à 150 000 participants partout en France. Plus de 300 rassemblements prévus. Et pour les changements, eh bien, ils concernent notamment votre compte professionnel de formation, le dispositif MaPrimeRénov' ou encore la facture de gaz. Stéphane Dubuard.
Après une tendance à la baisse ces derniers mois, le prix du gaz naturel repart à la hausse. À partir d'aujourd'hui, le kilowattheure coûtera 1,4% plus cher. Autre mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat, dès demain, les salariés devront débourser 100 euros pour avoir accès à une formation via leur compte CPF. Et selon le décret publié au journal officiel, ce montant pourra être revu chaque année. Du côté des prestations sociales, le RSA et certaines allocations seront revalorisées. Plus 4,6% à partir du 6 mai. Du changement à venir aussi pour MaPrimeRénov'. Dès le 15 mai, les maisons classées F et G pourront bénéficier d'aides pour leur rénovation. Et puis, pour un changement de chaudière ou des travaux d'isolation, vous n'aurez plus besoin de faire un diagnostic de performance énergétique. Enfin, également à la mi-mai, les franchises sur les consultations médicales vont doubler et passeront d'un à 2 euros.
Tiffaine Dubuard, attention si vous prenez la route pour un week-end prolongé. Anissa Haddadi nous le disait il y a un instant. 14 départements sont placés en vigilance orange pour risque d'orage de la Somme jusqu'à Lyon en passant par l'Île-de-France à partir de 17h ce soir. La littérature en deuil ce matin. Le romancier américain Paul Auster est mort à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer. Géant de la littérature, il est notamment l'auteur de Moon Palace, Léviathan ou encore Mister Vertigo. On y revient dans moins de 10 minutes juste après ce journal avec Nicolas Caro.
Et plus qu'une semaine avant l'arrivée de la flamme olympique en France. Elle débarquera du 3 mai le Belém à Marseille le 8 mai prochain.
Au programme, une parade majestueuse tout autour de la rade, puis une grande fête populaire sur le Vieux-Port. Et justement, dans la cité phocéenne, les professionnels de l'hôtellerie-restauration se préparent avec impatience. Stéphane Burgat.
Ce jour-là, tout le personnel sera sur le pont. Sur le Vieux-Port, l'hôtel carré de Nicolas Guyot affiche complet depuis longtemps.
Depuis un an, nos établissements sont remplis. Les hôtels du Vieux-Port sont pris d'assaut. Écoutez, à moins de partager la chambre avec quelqu'un d'autre, ça va être un peu compliqué. Ouais.
Des réservations effectuées massivement par les sponsors de la Flamme Olympique pour inviter leurs clients. Et entre les cocktails et autres événements, les agences d'intérim spécialisées sont sollicitées à l'image de Jean-Philippe Carmona, directeur de Victory Intérim.
Il y a besoin vraiment de bras. Plus on rentre dans la date qui arrive, plus ça devient impressionnant et compliqué. Ben de l'ordre d'une centaine d'emplois qu'on attend sur l'arrivée de la flamme.
Et en ce jour férié, les restaurateurs du Vieux-Port comme Frédéric Jean-Jean s'attendent également à un afflux touristique majeur.
On est prêt à faire face et tous les confrères sont prêts à faire face. Ah ben, les heures, on ne les compte pas. On est en train de regarder, mais je pense qu'il faudrait doubler l'équipe. Ah ben, on va être effectivement en pleine effervescence.
Effectivement, en tout, 150 000 personnes sont attendues pour assister à la parade maritime et l'arrivée de la flamme olympique. Marseille, Stéphane Burgato.
Et si vous êtes sur Marseille dès ce week-end, eh bien vous pourrez explorer à partir de samedi un lieu emblématique qui était fermé au public depuis 360 ans, le fort Saint-Nicolas, aussi connu sous le nom de la citadelle de Marseille. C'est là, par exemple, que Louis XIV avait installé des canons tournés vers la ville parce qu'il avait peur d'une révolution marseillaise.
Elle est marseillaise, Lina Pavon, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Bah, écoutez, merci, on a appris quelque chose grâce à vous. J'ignorais totalement ce détail historique.
C'est à visiter, une vue imprenable sur Marseille.
Et vous bossez à l'office de tourisme de Marseille, non?
Le week-end aussi. Il faut être un peu chauvin des fois.
Merci beaucoup, Nina Pavon. C'était votre journal. Allez, à suivre l'édito international d'Europe 1. Nous irons à Vienne ce matin, à Vienne en Autriche, où l'on a débattu hier du moment Oppenheimer de notre génération. Oppenheimer comme l'inventeur de la bombe atomique. Il s'agit, en ce qui nous concerne, de l'irruption des armes autonomes régies par l'intelligence artificielle. C'est aussi important, nous disent les experts, que l'invention de la poudre à canon ou que la bombe atomique elle-même. Qu'en disent les politiques? Eh bien, pas grand-chose, nous expliquera Vincent Hervouette dans un instant.
Il est 7h38, bon début de journée, bon 1er mai avec Europe 1.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. On se retrouve cet après-midi de 15h à 16h dans Historiquement Vôtre sur Europe 1.
Historiquement Vôtre.
Alors qu'un terrible accident lui a coûté la vie il y a 30 ans jour pour jour, je vous raconte le destin du pilote brésilien qui a traversé son époque comme les circuits à toute vitesse. La véritable histoire d'Ayrton Senna, le champion qui a trop vite quitté la piste.
Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
C'est cet après-midi de 15h à 16h sur Europe 1.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, arrivent à faire rimer c'est nouveau avec comment? C'est déjà en promo? Jusqu'au 27 mai, profitez de jusqu'à 15% de réduction sur la nouvelle gamme de fenêtres PVC et d'un financement 20 fois sans frais. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Offre de crédit affectée 20 fois sans frais, valable du 2 au 27 mai pour tout achat de 1500 à 15 000 euros. Après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Conditions sur lapaire.fr.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Carrefour. Pour les French Days, avec 100 euros de remise immédiate et 20% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, le téléviseur Samsung LED 4K 145 cm revient à 399,99€ au lieu de 599,99€. Et c'est jusqu'au 13 mai dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Limité à 1800 pièces, référence TU58 CU7105, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon début de journée. Bon 1er mai à tous. Il est 7h41. Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, votre édito politique quotidien. On va faire le point ce matin sur les élections européennes. Quelles leçons politiques tirées des intentions de vote à un peu plus d'un mois du scrutin? Bon, petit résumé, on a un Bardella stratosphérique qui pèserait à lui seul plus lourd dans les urnes que Valérie Ayer et Raphaël Glucksmann réunis. On en parlera avec Vincent Trémollet de Villers. Le Club Culture d'Europe 1 Matin dans un instant avec, en ce mercredi, les sorties cinéma. Bonjour Laurie Choléva.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa,
bonjour à tous.
On va voir quoi en ce 1er mai?
On va surtout voir le premier long métrage d'Artus, qui est très réussi.
Le livre du jour arrive également avec Nicolas Caro en ce jour particulier, ce jour de deuil pour la littérature mondiale. On vient d'apprendre la disparition de Paul Auster.
Et voilà, et donc je vous parle de mon roman préféré de Paul Auster, 4-3-2-1.
A tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vincent, ce 1er mai, vous nous parlez de la guerre et de l'intelligence artificielle.
Oui, c'est le bonjour pour s'intéresser aux machines qui peuvent soulager le travailleur sans le remplacer, promis, juré. Il y a une vision irénique, positive, pour ne pas dire naïve, du progrès technologique, le robot qui fait le ménage et les voitures qui volent. Il y a une réalité plus obscure, comme la reconnaissance faciale qui permet de repérer un Ouïghour en fuite au milieu de la foule dans le métro de Shanghai. Ça, c'est Orwell, c'est inquiétant, mais c'est fait. Et puis, Il y a l'intelligence artificielle appliquée à la guerre. Elles sont faites l'une pour l'autre. D'ailleurs, tout est parti de là il y a 70 ans. Le chantier est aujourd'hui prioritaire dans les plus grandes armées. La Chine est déterminée à être la première dès 2030. Les Américains, eux, investissent des milliards. L'apocalypse est dans le paysage, c'est pas nouveau. Il y a quelques années, Elon Musk avait imaginé que l'intelligence artificielle déclenche la Troisième Guerre mondiale, après avoir calculé que l'initiative d'une frappe nucléaire offre de meilleures probabilités de remporter la victoire.
Mais pourquoi souriez-vous, Vincent ? Ça n'est absolument pas drôle. Une conférence internationale sur le sujet, d'ailleurs, a réuni hier à Vienne, en Autriche, et avant-hier, un millier de participants.
Des experts, des décideurs politiques, des entrepreneurs, des ONG de tous les pays. Avant de se quitter, ils ont lancé un appel très solennel. C'est une exhortation à réguler les robots tueurs de toute urgence. Le document parle du moment Oppenheimer de notre génération. Vous avez vu le film qui raconte comment le père de la bombe américaine a été dépassé par sa créature. Dans le domaine militaire, l'intelligence artificielle constitue la troisième révolution. La première, c'était l'invention de la poudre. La deuxième, la bombe atomique. Avec l'intelligence artificielle, on a changé d'époque. D'ores et déjà, elle bouleverse le champ de bataille. Vous avez remarqué à Gaza, comme par exemple en Ukraine, eh bien les combattants sont retranchés sous terre. Et pour cause, parce que s'ils sont visibles, eh bien ils sont condamnés à mort. En permanence, la surface est quadrillée par des robots qui localisent, sélectionnent, attaquent les cibles humaines sans intervention de sources humaines. Et il y a pire que la guerre, donc la plus stupide, il y a l'intelligence donnée aux robots tueurs.
Alors le texte de Vienne dit, je vais le citer, hein, « Avant que la fenêtre ne se referme, nous avons la responsabilité d'agir et de mettre en place les règles nécessaires pour protéger l'humanité ». Fin de citation. Donc le contrôle humain doit prévaloir dans l'utilisation de la force.
Hein. Alors de quoi il parle ? Des armes létales autonomes, des drones, des torpilles, des robots, toutes sortes d'engins auxquels les algorithmes donnent de l'autonomie. Pourquoi maintenant ? Eh bien, il y a 10 ans, Stephen Hawking voyait les technologies se développer à une telle vitesse qu'elles allaient devenir incontrôlables et mettre l'humanité en péril. Or la guerre en Ukraine, à Gaza, dope les ingénieurs, les budgets de recherche et de développement. Il faut s'attendre donc à une percée scientifique majeure. Qui peut s'y opposer ? Eh bien, sûrement pas les diplomates. Les initiatives à l'ONU sont restées platoniques, sans pouvoir de contrainte. Les grands pays et quelques-uns plus petits font le forcing dans leurs labos et ils n'ont pas du tout l'intention de rendre des comptes. Le ministre des Affaires étrangères autrichien résume bien le problème. Comment donner droit de vie et de mort à des machines ? Comment gérer les algorithmes sujets aux erreurs et aux biais ? Comment empêcher que la technologie tombe aux mains des terroristes ? Poser ces questions, c'est sonner le tocsin. Personne ne répond. Son ordinateur a dû lui conseiller, sans rire, d'envoyer le texte au secrétaire général de l'ONU. Bien, c'est ce qu'il a fait. Le courrier est en route.
Vertigineux, vraiment. Merci beaucoup, Vincent Hervoy, de Signature Europe 1. Il est 8h moins le quart.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Nous avons donc appris ce matin la mort à l'âge de 77 ans de l'écrivain américain Paul Auster. Avant de vous donner la parole, on va réentendre sa voix car elle était parfaitement francophone et vous l'aviez reçue dans La Voix et Livre en 2018. Extrait.
Je ne veux pas écrire toujours le même livre. Chaque livre, c'est un nouveau commencement pour moi. Ça, c'est la beauté de toute l'entreprise.
Alors, à propos des livres de Paul Auster, lequel préférez-vous, Nicolas Carreau ? Duquel de ses romans voulez-vous nous parler ce matin ?
Alors, les puristes retiendront sans doute sa trilogie new-yorkaise qui a fait son succès à la fin des années 80 entre le polar et le roman philosophique. Et c'est vrai que ce sont de grands livres, Cité de verre, Revenant et La chambre dérobée. Mais celui qui m'a le plus marqué, moi, c'est son roman intitulé 4-3-2.
Ouais, quatre vies possibles, hein, c'est bien ça.
Exactement. En fait, ça commence avec le grand-père du héros, originaire de Minsk, qui débarque à Ellis Island pour immigrer aux États-Unis. Il cherche un nom, il en trouve un, mais quand il arrive devant l'employé, il ne se rappelle plus. Et quand il lui demande son nom, il répond « Ich hab vergessen, j'ai oublié ». En yiddish, ce sera donc Ferguson. Bien des années plus tard, en 1947, voici notre héros, Archibald Ferguson, son petit-fils, on peut l'appeler Archie. Il vit avec ses parents, son père, un bosseur, tient un magasin d'électroménager, mais les frères du père, les oncles d'Archie, décident de monter une fraude à l'assurance et mettent en péril le magasin. Catastrophe, mais ça, ce n'est qu'une des vies possibles d'Archie. Dans une autre, le magasin brûle. Dans une troisième, c'est encore plus terrible, je vous dis pas quoi. Et dans une autre encore, apparemment, ça commence mieux sa vie. Paul Auster
déroule ensuite quatre vies possibles du même héros.
Voilà, il faut de la place hein, pour raconter tout ça. Hein.
Alors, plus de 1000 pages, mais il faut aussi de l'organisation. Les chapitres s'articulent avec des numéros pour s'y retrouver. Chapitre 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, etc. Vous voyez, c'est très clair en fait, et on suit les quatre destins de la même personne en se disant nous aussi parfois « et si dans ma vie, il ne s'était pas passé ceci ou cela ?» Vous voyez l'idée. C'est assez vertigineux. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le plus austérien des romans de Paul Auster, si jamais ça a un sens de dire ça, mais c'est un roman génial. Les identités se brouillent, la liberté de l'individu émerge, et donc on retrouve les sujets de prédilection de Paul Auster.
Voilà, 4, 3, 2, 1, et ça fait la fortune d'Actes Sud, hein, je crois,
ah, Paul Auster. Ça va très très bien marché.
Absolument, ces livres en grand format, assez étroit. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le cinéma, Laurie Choleva, vous nous recommandez ce jour une comédie sur le handicap.
Et oui, l'humoriste et comédien Artus passe derrière la caméra, ça donne le film un petit truc en plus, et c'est vraiment mon gros coup de cœur cette semaine. Artus incarne un braqueur en cavale aux côtés de son père, joué par Clovis Cornillac, qui décide de se cacher dans une colonie de vacances pour jeunes adultes handicapés, dirigée par Alice Belaïdi.
On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente.
Très très proche, hein.
Frères et sœurs, jour et nuit.
Pardon ?
Pourquoi ils nous regardent, les gens ?
Oh, les femmes ! On vous en met !
C'est une comédie osée, drôle, touchante. C'est un mélange en fait entre Le huitième jour et Nos jours heureux. Et comme le titre l'indique, eh bien c'est une comédie qui a vraiment un truc en plus. Hein. Et en grande partie, c'est dû au casting que réunit Artus, puisqu'il fait jouer 11 adultes en situation de handicap.
Ouais, il raconte qu'il a eu du mal à convaincre les producteurs
autour de ce projet.
Il a
essuyé énormément de refus.
Vous reconnaîtrez un jeune journaliste du Papotin aussi, qu'on voit dans Le Papotin sur France Télévisions, c'est qui vrai. Est dans le casting. Ouais.
Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a adapté son scénario à ses comédiens. Il les a castés, puis il a écrit pour eux, et c'est ce qui donne cet effet si réaliste dans le film. On n'a pas l'impression de les voir jouer, on a juste l'impression de partager un moment avec eux. En fait, on ne rit pas d'eux, on rit avec eux. C'est un film qui fait du bien et surtout qui change notre regard sur le handicap.
Voilà, un petit truc en plus. Mais on va en parler aujourd'hui sur Europe 1, car il se trouve qu'Artus et Alice Belaïdi seront tout à l'heure, super, à 10h, les invités de Culture Média avec Thomas Hill. Viggo Mortensen aussi, Aragorn, de retour, mais dans un plutôt rôle western.
Hein. Oui, complètement. C'est aussi l'acteur fétiche de David Cronenberg, évidemment. C'est son deuxième long métrage en tant que réalisateur, Jusqu'au bout du monde, un western qui se passe en pleine guerre de sécession, dans lequel Vicky Cripps, qui joue Vivienne, une jeune femme indépendante, décide de suivre, et ben oui, ce cow-boy taiseux joué par Viggo Mortensen, qui a acheté un petit lopin de terre dans un coin désertique du Nevada dont elle est tombée amoureuse.
C'est ici ?
Le bout du monde.
On dirait un repère de bandits.
On cherche des hommes d'honneur prêts à se battre pour sauver l'Union.
Ce n'est pas ton problème, ce n'est même pas ton pays.
Je veux faire ce qui est juste.
Bon, c'est un western féministe, hein, c'est un film original qui nous montre le Far West, mais du point de vue d'une femme, puisqu'elle va se retrouver seule, elle va devoir affronter la violence des hommes, subvenir à ses besoins, s'occuper seule de son enfant. C'est très joli, très émouvant.
Voilà, donc Jusqu'au bout du monde, le second film que vous nous recommandez, Laurie Choleva. On vous retrouve tous les week-ends sur Europe 1 dans Clap.
Oui, tous les samedis, 19h-20h, c'est l'émission cinéma d'Europe 1. Et ce samedi, vous recevrez Laurie, Max Boublil pour le film Neuilly-Poissy et Emmanuel Berco pour L'Esprit Coubertin. Il y a du beau monde chez vous, Laurie.
Merci beaucoup.
Allez, à ce week-end, Laurie. Merci Nicolas, merci Vincent. Dans un instant, votre édito politique sur Europe 1, juste après le journal permanent à 7h51. Nina Pavan.
Ramener le calme à Gaza, l'objectif affiché d'Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine. Il rencontre ce matin Benjamin Netanyahou et exhorte le Hamas à signer l'accord de trêve valable jusqu'à ce soir. Europe 1 en direct de Tel Aviv dans moins de 10 minutes. Pour la fête du travail aujourd'hui, jusqu'à 150 000 manifestants attendus partout en France, selon les chiffres du renseignement intérieur. Le beau temps, ce n'est pas encore pour tout de suite. Autour de la capitale, 14 départements en vigilance orange pour risque d'orages violents, de la Somme à Lyon en passant par l'Île-de-France. Et puis la suite des demi-finales aller de la Ligue des champions de football ce soir, 21h, le PSG affronte le Borussia Dortmund. Hier soir pour le premier round, ça s'est terminé sur un nul, de partout entre le Bayern Munich et le Real Madrid.
7h-9h, Europe 1 matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent.
Alors nous sommes à un peu plus d'un mois des élections européennes. Les sondages disent à tous, à quelques nuances près, la même chose. Hein. Jordan Bardella autour de 30%, Valérie Ayer, la candidate de la majorité, en dessous de 20%, talonnée par Raphaël Glucksmann qui lui flirte avec les 15%. C'est donc le RN qui fait la meilleure campagne, Vincent.
C'est surtout, Dimitri, le RN qui ne fait pas campagne. Jordan Bardella, qui a refusé pas mal de débats, l'a dit lui-même, « Moi je parle, plus je monte ». Et il a ajouté « Les autres candidats devraient faire comme moi ». Et si tous les autres candidats font comme lui, pour une majorité de Français, ça ne changerait pas grand-chose, tant nos concitoyens se désintéressent aujourd'hui de ce scrutin. Il faut dire que cette campagne est fade comme un plateau repas à la cantine de la Commission européenne. Pouvez-vous me citer, Dimitri, une formule, un événement, un discours marquant des trois favoris, Bardella, Ayer, Glucksmann ?
Non, en effet.
C'est une campagne muette, comme il y avait un cinéma muet. Il n'y en a que deux qui mettent un peu d'intensité quand ils parlent, c'est Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Les deux essayent d'enflammer le stade, de tirer au but, mais c'est pour marquer contre leur camp. Par ses outrances, Jean-Luc Mélenchon normalise le vote RN et renvoie vers la liste socialiste toute la gauche effrayée par ses excès. Et de son côté, quand il veut envoyer des troupes au sol en Ukraine, quand il prononce le discours de la Sorbonne ou quand il veut partager l'arme nucléaire avec les Européens, Emmanuel Macron monte le son, mais ses anciens soutiens eux-mêmes se bouchent les oreilles. Nous vivons un moment tout à fait curieux. Emmanuel Macron, qui était le moteur du bloc central, est en train d'en devenir le boulet.
Donc vous pensez, Vincent, que ce scrutin est en train de tourner au référendum pour ou contre le président de la République ?
Oui, le président devient comptable de l'état déplorable du pays. C'est souvent légitime, c'est parfois injuste, mais c'est comme ça. Ce n'est pas Jordan Bardella qui est efficace contre la liste de la majorité. C'est la réalité qui chaque jour fait mal au pouvoir en place. La dette, les déficits, l'insécurité, l'immigration, l'effondrement de l'école... Tout est renvoyé au président de la République. Dès lors, vous avez deux votes qui surnagent pour dire votre ras-le-bol. Si vous êtes de la droite Michel Sardou, vous votez Bardella pour exprimer un anti-macronisme radical, franc et massif, une sorte de forme civique, sereine du Macron démission. Si vous êtes de la gauche Canal Saint-Martin, dans la contestation chic, propre sur elle et souriante, vous avez le bulletin Raphaël Glucksmann. La preuve, après Daniel Cohn-Bendit, après François Sureau, c'est Bertrand Delanoë qui dit tout le bien qu'il pense du candidat socialiste. Il ne faut pas se tromper. Bardella ne fait pas l'union des droites, il est le réceptacle de l'antimacronisme de toutes les droites. Et Raphaël Glucksmann ne réveille pas la gauche, il recueille les macronistes de gauche déçus par le président.
Mais vous ne pensez pas qu'à l'approche du scrutin, le vote légitimiste va se reconstituer, Vincent ?
C'est ce que l'on veut croire, c'est ce que l'on espère à l'Élysée. On se rassure en se disant que Glucksmann, c'est une bulle sondagière, promis au destin de Bellamy qui, en 2019, était, souvenez-vous, donné à 14 et a terminé à 8,5. On espère que les électeurs retraités, ceux qui se déplacent, céderont à l'émotion quand le 6 juin, trois jours avant l'élection, le président prononcera son discours à Omaha Beach. C'est un scénario possible, mais il en est un autre beaucoup plus inquiétant pour le camp présidentiel. C'est l'effet du croisement des courbes entre Raphaël Glucksmann et Valérie Ayer. Il faut bien comprendre que le vote Macron est moins fondé sur les convictions ou l'affect que sur la volonté de participer à un vote gagnant, d'être valorisé socialement par son choix électoral. Le macronisme qui perd, c'est aussi attractif qu'un vêtement démodé. Autrement dit, si la dynamique baissière de la liste de la majorité se poursuit, la France qui gagne s'éloignera de plus en plus de la liste de la loose.
L'édito politique sur Europe 1, merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers pour votre regard. Il n'y a pas de Figaro en kiosque ce mercredi, bah oui c'est normal.
Il n'y a pas de journaux, mais il y a une revue de presse.
Il y a une revue de presse et on vous lit en ligne sur lefigaro.fr et à la une du figaro.fr ce matin, New York, où la police déloge les manifestants pro-palestiniens de l'université Columbia. Dans le journal de 8h d'ailleurs, nous irons en Israël où Benjamin Netanyahu promet que Tsahal entrera, quoi qu'il arrive, dans Rafah, accord ou pas avec le Hamas. L'enjeu pour Israël étant de restaurer à tout prix sa dissuasion. Merci beaucoup Vincent, à demain.
Il est 7h56, très bon début de journée, merci d'avoir choisi Europe 1, nous sommes le mercredi 1er mai aujourd'hui Dimitri.
Oui, et alors il y a une tradition autour du muguet, vous nous disiez Anissa tout à l'heure à 5h, on va la répéter pour ceux qui n'étaient pas là.
Alors,
combien de brins de muguet faut-il offrir ?
Alors, il faut offrir traditionnellement 3 brins de muguet avec 13 clochettes en tout. C'est la tradition pour éloigner la malédiction de l'hiver. Voilà, donc si on veut sortir de cet hiver, il faut vraiment offrir 13 clochettes. Et ça date de 1561 du roi Charles IX qui a instauré cette tradition du muguet.
Donc 3 brins avec 13 clochettes. Ah bah dis donc, c'est précis. Nous fêtons ce jour également en 1er mai Saint-Joseph Artisan, le père adoptif de Jésus, charpentier de son état, honoré aujourd'hui comme travailleur modèle par l'Église catholique. Bon courage d'ailleurs à tous ceux qui sont à l'ouvrage ce mercredi, bon repos à tous les autres, bon réveil à tous avec Europe 1. Dans un quart d'heure, face à Sonia Mabrouk, la magistrate Béatrice Brugère du Syndicat National de la Magistrature Force Ouvrière, elle sera l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews.
7h, 9h, Europe 1 Matin. Renault.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 900 km d'autonomie. En ce moment, Renault Clio E-Tech Full Hybrid est à partir de 210 euros par mois.
Clio Evolution E-Tech Full Hybrid 145 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 3 000 euros. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque. Voir conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
IKEA.
On est quand même bien au soleil sur notre balcon, hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « Ah, je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez de moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 79 centimes.
Le concombre ?
Très oui, en ce moment chez Lidl, le concombre est à 79 centimes la pièce.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et le deuxième est à moins 50%, soit 39 centimes le concombre. Ça revient à 1,18€ le lot de deux.
Ils s'encombrent vraiment pas. On est mal.
Bah, c'est le concombre.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Bientôt 8h sur Europe 1. Le temps, Anissa Dadi, il va falloir faire très attention aux orages cet après-midi qui vont taper fort au nord du pays.
Hein. Je vais répéter ce qui se dit en studio et Sonia Mabrouk m'a dit « Bon, il arrive quand le beau temps ?» Sonia, c'est pas pour aujourd'hui encore, malheureusement. Il va falloir être très très patient. C'est une journée très pluvieuse aujourd'hui avec des nuages sur une grande partie de la France, de perturbations qui arrosent quasiment toute la moitié du pays. Seule l'Alsace, la Lorraine, les Hauts-de-France, la région parisienne restent au sec ce matin avec quelques éclaircies. Cet après-midi, le soleil est de retour sur la façade atlantique, mais avec beaucoup